Voilà, donc dans l'immédiat, essayons de boucler, de poursuivre et de finir ce premier mouvement de pensée engagé en 2015 qui nous avait conduit à partir. Je résume très très rapidement pour remettre les choses en place. Nous étions partis donc d'une réflexion un peu lente sur les différentes dimensions que revêt la question de l'étranger liée aux migrations dans notre société, dans notre monde contemporain. Je n'y reviens pas. Nous avions vu combien cette question est complexe dans la mesure où elle croise des dimensions démographiques, économiques et aussi, je dirais beaucoup, culturelles et donc éthiques, philosophiques, politiques. Des questions desquelles on a du mal à se sortir vu que la confusion règne beaucoup aujourd'hui dans les esprits. Et ensuite, nous avions tenté de prendre le problème à la racine, entre guillemets, en se plongeant dans l'Antiquité grecque. Qu'est-ce que pensaient et qu'est-ce que faisaient les Grecs par rapport à la question du rapport à l'étranger? Et nous étions surtout arrêtés sur Platon. Platon, dont nous avions vu la complexité et la subtilité de la pensée en la matière, qu'on ne peut pas réduire, comme trop souvent on le fait, à une thèse simple et monolithique, notamment sur ces questions, d'autant plus, je vous le rappelle, que l'étranger, le rapport aux étrangers, ne fait pas l'objet d'un livre chez Platon ou d'un passage d'un livre, mais c'est une question qui est dispersée sur au moins une quinzaine de livres, ce qui accroît la complexité. Donc, je n'y reviens pas. Aujourd'hui et la prochaine fois, ce que je souhaite, c'est faire un aller-retour entre toujours l'actualité de la question. La philosophie, je rappelle, ne vaut que si elle nous questionne dans notre existence pour aujourd'hui. Ce n'est pas simplement une histoire des idées, c'est-à-dire un savoir, un corpus de savoir académique. Quand je dis ça, je ne rejette pas du tout l'importance de l'acquisition, de la transmission de savoir en tant que tel. Mais je dirais, et je n'y reviens pas, parce que je l'ai déjà pas mal développé avec Pierre Hadot en particulier, que la philosophie, c'est plus que ça. Ça doit être plus que ça. Qu'une histoire des idées, ça doit être un chemin, une démarche consistant à réfléchir aujourd'hui sur le présent, sur notre être, sur notre existence, pour l'orienter. Alors, on peut appeler ça de différentes manières. Foucault, quand il avait abordé dans ses derniers livres la question du mode de vie des Grecs, parlait du souci de soi. La philosophie comme chemin qui a pour objet principal la question du souci de soi, c'est-à-dire le cheminement vers une vie orientée vers le bien pour soi, le bien pour les autres. Ce qu'Aristote avait pu appeler l'ataraxie. Ataraxie, c'est-à-dire la tranquillité de l'âme. La tranquillité de l'âme, entre parenthèses, je dis tout de suite ça pour pas qu'il y ait de malentendu, qui ne suppose pas qu'on évacue tout ce qui est sujet d'intranquillité. C'est-à-dire probablement qu'il faut en passer par l'intranquillité pour tenter d'atteindre un stade idéal, supérieur, qui est l'ataraxie, c'est-à-dire la tranquillité de l'âme. Voilà, donc je disais cela pour dire qu'il est important de se laisser chahuter, questionner, par ce qui nous apparaît insupportable dans l'existence actuelle, dans l'actualité de nos vies, pour mieux ensuite prendre la mesure, la distance, et revenir à ce qui peut fonder nos orientations de vie. Donc Platon, nous l'avons largement abordé. Là, ce que je souhaiterais, c'est repartir de questions actuelles et ensuite en venir un peu rapidement sur les deux séances à l'autre grand penseur de l'Antiquité grecque, qui est Aristote. Donc on abordera Aristote dans un second temps, dont vous verrez, mais on l'avait déjà abordé par rapport à la question pour ceux qui étaient là, de la communauté, dont vous verrez que tout son système de pensée est nourri par Platon, il a été un disciple de Platon, mais en même temps par un travail critique et de mise à distance d'un certain nombre de positions de Platon, notamment en ce qui concerne notre sujet, c'est-à-dire le nous, la communauté, la cité, ce qui est extérieur au nous, donc la question des rapports à l'étranger. Alors, pour commencer, l'actualité depuis que nous avons entrepris la réflexion sur cette question cruciale n'a cessé, disais-je, de nous bousculer. et encore depuis l'été, de nous bousculer violemment, et avec en particulier la question des migrants ou des réfugiés. Je ne reviens pas sur ce distinguo un peu journalistique sur les deux termes qui a peu d'importance par rapport à la question de fond. Est-ce que ce sont des réfugiés politiques, des réfugiés de guerre, ou est-ce que ce sont des migrants économiques? Toutes ces questions sont un peu journalistiques, c'est-à-dire qu'elles sont un peu superficielles quand même sur le fond. Parce que les questions de fond de notre rapport à ce qui nous est étranger restent les mêmes ou la même. Bref. Donc, la question de l'actualité a revêtu un caractère encore plus dramatique, disais-je, depuis l'été. On est bousculé. Alors, il y a cette image médiatique, mais qu'il faut prendre comme quelque chose de plus en profondeur, la fameuse photographie de petit Turc noyé, qui a manifestement bouleversé la conscience européenne. Donc, on ne va pas disserter, c'est une question là aussi tout à fait secondaire, sur... Pourquoi c'est une image comme cela, une photo qui joue ce rôle-là? Pourquoi maintenant, alors qu'avant la question se présentait tout aussi grave? Peu importe, peu importe. On sait encore une fois que le monde fonctionne ainsi, qu'à des moments donnés, une image ou un fait particulier va cristalliser ou réveiller les consciences qui restaient plus ou moins endormies pendant longtemps. Ça a été récurrent cette affaire. Pensez notamment... pour ceux qui en ont le souvenir, à la fameuse image des enfants et notamment de la petite fille qui courait au Vietnam sur le chemin après les bombardements au napalm, qui a joué manifestement un rôle majeur dans la prise de conscience des Américains et le mouvement anti-guerre du Vietnam et qui a contribué du coup, pour une part non négligeable, à créer ce mouvement d'opinion aux États-Unis qui a mis fin à la guerre du Vietnam. C'est récurrent cette affaire, peu importe, on pourrait disserter sur ce sujet, mais d'un point de vue plus sociologie ou sociologie de l'opinion, ce n'est pas notre propos. Donc il est clair que cette photographie du petit enfant noyé sur la plage turque a joué là aussi ce rôle de réveil des consciences et a été concomitante avec ce flux toujours plus important, quotidien, des réfugiés syriens, irakiens, érythréens et un peu aussi afghans en Europe, avec tous les problèmes, les interrogations que cela suscite aujourd'hui, qu'on ne peut pas simplement traiter par une opposition, parce que tout le débat semble reposer sur une espèce d'opposition rigide et très clivante, d'un côté un réalisme, qui est qu'on ne pourrait pas accueillir tout le monde, la fameuse phrase de Rocard, et entre autres, ben Rocard a dit « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde », mais c'est la même idée. Et d'un côté, la position de bonne conscience morale qui dit « il faut accueillir tout le monde », etc. Cette opposition dans les catégories de pensée n'est pas juste, elle ne fait pas avancer une réflexion sur le fond en regard des enjeux. Et quand je dis ça, je ne dis pas qu'il n'y ait pas une obligation morale à l'hospitalité. On va le voir. À travers un premier texte, un texte facile à lire, mais qui pose des questions quand même cruciales, qui est une interview récente dans le quotidien La Croix de Patrick Bucheron, et qui pose la question, cette question-là, de l'hospitalité. Donc ça me paraissait intéressant de revenir sur cet entretien qui pose des questions, au fond, philosophiques. Outre le fait que Patrick Bucheron, c'est un familier, un ami d'ici, il se trouve que ce petit entretien soulève des questions qui sont des questions philosophiques, précisément, autour de la question de l'hospitalité. Je rappelle, pour faire déjà quelques allers-retours avec les Grecs anciens, qu'un mot-clé que nous avons eu à explorer depuis longtemps, qui pose la question du « nous », de la cité et de ce qui n'est pas « nous », un mot-clé de la philosophie grecque qui est « philia », P-H-I-L-I-A, co-traduit couramment par amitié, veut dire, je l'avais déjà évoqué, mais je le rappelle, aussi, c'est un mot très complexe comme beaucoup de ces mots grecs, et qui est polysémique, qui a des sens multiples, selon les périodes de l'histoire grecque, selon également le contexte dans lequel ils sont inscrits, et philia, au fond, veut dire originellement l'hospitalité, précisément. On y reviendra. Donc, cet entretien de Patrick Bucheron, je vais le lire à haute voix et on le commentera au fur et à mesure. s'intitule « L'hospitalité n'est pas un devoir, elle est un droit ». Donc, il s'agit bien de la question de l'hospitalité. Donc, le chapeau, hein, il nous rappelle, Patrick Boucheron, que le droit d'asile est le fruit d'une longue et douloureuse histoire et avec ferveur nous invite à conjurer nos peurs. Quelle lecture faites-vous de l'accueil des réfugiés en France ? Donc, au début, il y a des rappels factuels que vous connaissez tous, je ne vais pas m'étendre plus que ça. Patrick Boucheron. On discute pour savoir s'il est raisonnable d'accueillir en France 24 000 réfugiés syriens en 2 ans, pendant que l'Allemagne en accueille 20 000 en 2 jours. Comment rendre compte de cette scandaleuse dissymétrie sans se cantonner dans l'indignation morale ? Donc ça, c'est une position qu'il pose en blé, qui est importante. L'indignation morale ne sert à rien. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas rester sur un plan éthique, s'intéresser à un plan éthique, mais on le voit bien dans le contexte actuel, la morale ne sert à rien. L'indignation morale ne sert à rien. Il faut la muscler, la complexifier, l'argumenter par une réflexion philosophique, on va dire ça comme ça, ou métapolitique en profondeur. Parce que l'indignation morale ne fera rien contre les mouvements PEDIGA, par exemple en Allemagne ou un peu partout en Europe, ou les positions d'un FN en France. Il faut donc muscler, prendre de la hauteur, de la profondeur par rapport à ce qui peut être un point de départ, nous mouvoir personnellement, qui est une considération morale, éthique. Donc sans se cantonner dans l'indignation morale. Car on ne saurait opposer l'idéalisme allemand au réalisme français. Là, c'est un petit clin d'œil ironique à l'histoire de la philosophie, précisément. Parce que l'idéalisme allemand, pour quiconque fait un peu de philosophie, ça désigne toute une tradition de pensée philosophique moderne en Allemagne, avec notamment Hegel comme figure majeure. Et vous savez que Marx, qui a développé sa pensée avec et contre Hegel, reprochait à Hegel son idéalisme, et lui s'est voulu par opposition, non pas réaliste, mais matérialiste. Voilà. Donc il y a un petit clin d'œil là, parce qu'en l'occurrence, l'idéalisme allemand là, désigne la politique actuelle de notamment Angela Merkel. Et le réalisme français, c'est la position qui consiste à dire 24 000 en 2 ans. Voilà. Bref, il y a un autre clin d'œil, réalisme, je vous le rappelle, c'est un courant de philosophie qui était très important au Moyen-Âge et dans la chrétienté médiévale et particulièrement sur le territoire français, géographiquement parlant. Et le réalisme, ça désignait la philosophie des platoniciens, que par ailleurs, on peut nommer d'idéalisme. Ceci pour dire que là, son petit jeu sur ces deux catégories qu'il oppose, c'est un peu une ironie qui montre que tout ceci ne tient pas et ne définit pas une opposition. Je rappelle, pour que ça soit clair pour tout le monde, je l'avais déjà évoqué, en effet, que Platon, largement aujourd'hui, on le traite d'idéaliste au sens où on dit que c'est une philosophie idéaliste. Pourquoi ? Parce que ce qui est un des fondements de la pensée de Platon, c'est l'idée que les idées, c'est ce qui détermine l'ordre du monde et des existences. Vous avez le ciel des idées, si vous voulez. Chez Platon, pensez au mythe de la caverne. Il faut sortir de la caverne qui est dans l'illusion pour rejoindre, au fond, le soleil, mais le ciel des idées, quoi. Mais, au Moyen-Âge, à juste titre, on ne désignait pas les platoniciens du terme d'idéalisme, mais du terme de réalisme, parce que chez Platon et chez les platoniciens, les idées sont une réalité. Ça existe réellement. Voilà, je ferme la parenthèse là. En effet, chez Platon, je rappelle toujours l'exemple qu'il prend, quand le potier façonne de la glaise, matière, donc réalité, pour en faire une poterie, c'est précisément parce que préexiste l'idée comme une réalité de la forme du pot. Et je rappelle que le mot « idée » vient du grec « eidos », E-I-D-O-S, qui en grec veut dire possiblement idée, mais veut dire d'abord forme, une forme. La matière étant informe, l'idée qui est là lui donne forme, le pot. Donc, on voit là toute la malice de Patrick Boucheron dans des phrases qui comme ça apparaissent. Car on ne saurait opposer l'idéalisme allemand au réalisme français. C'est l'orchestration de la crainte qu'est censé nous inspirer l'afflux d'un tout petit nombre de réfugiés qui est de part en part idéologique, tandis que la gestion allemande de l'urgence semble bien pragmatique, on l'a compris tout récemment, eu égard à leurs besoins de manœuvre, aux enjeux de sécurité intérieure et aux politiques de la mémoire nationale. Pour expliquer ces différences, certains sont tentés d'avoir recours à l'histoire, même si c'est peut-être encore une manière de se rassurer. Je ne suis pas historien du contemporain, mais il me semble que nous devons convoquer au moins deux moments de notre histoire récente. Alors, avant de venir à ces moments, juste ce qu'il évoque au-dessus, la question de la crainte. C'est une question essentielle, on y reviendra ensuite, la crainte ou ce qu'il nomme aussi la peur. Rappelez-vous le texte que nous avions abordé, qui avait suscité polémique, d'Olivier Rollin par rapport à l'islamophobie, où il rappelait que l'islamophobie, ce n'est pas la haine, ça serait la miso-islamie. L'islamophobie, c'est phobos en grec, c'est la peur, la crainte, la peur, ce qui nous effraie, la peur, en l'occurrence, de l'islam. Et c'est bien un fait réel têtu qui caractérise notre époque, cette espèce de peur massive, en partie irrationnelle, que suscite cette religion et la population qui va avec, cette religion étrangère qui nous paraît étrangère à nous, surtout si on se revendique d'une culture chrétienne. Je rappellerai d'ailleurs ceux qui ont pu écouter certaines interventions cet été qu'on est bien dans l'irrationnel parce que l'histoire montre par exemple, ou même la philosophie musulmane, islamique, pensez à ce qu'a pu faire Christian Jambet ou des gens comme Julien Loiseau, etc. L'islam est d'une proximité confondante avec le christianisme. C'est vraiment tout près, tout près du point de vue des catégories de pensée, etc. Je dirais même qu'il y a plus d'écart entre les branches de l'islam, par exemple entre le chiisme et le sunnisme, et a fortiori le soufisme, qui est la branche mystique de l'islam, qu'entre, par exemple, le chiisme et le christianisme. Dans le chiisme, par exemple, Jésus existe, c'est un prophète, etc., très clairement. C'est pour cela que qualifier ces peurs d'irrationnelles, c'est dire que ça ne correspond pas à une réalité. C'est une construction de l'imaginaire pour une part. Mais on ne peut pas se rassurer avec cela, ou se tenir pour quitte avec cela en disant « vous avez peur, mais c'est votre imaginaire, vous délirez ». Même dans la vie quotidienne, dire à quelqu'un qui a peur « allez, arrête de délirer, tu as trop d'imagination », ça n'a aucune prise. Pourquoi ? Parce que même si c'est une construction de l'imaginaire, c'est un fait. C'est un fait. Et un fait d'autant plus puissant qu'il est collectif. Et l'histoire est traversée de ces périodes. Pensez à comment les mouvements millénaristes en l'an 1000 en Europe ont contribué à quand même bouleverser l'Europe. Les millénaristes étaient que la chrétienté était convaincue que les temps messianique et donc d'abord apocalyptique arriverait sur Terre assez vite, et que c'était l'an 1000. Donc, une simple convention arithmétique se transformait en puissance de l'imaginaire. L'an 1000, ça allait être l'apocalypse. Mais regardez comment, en l'an 2000, on n'a pas été épargné de ça. Ça se voulait souvent plus rationnel, mais au fond, ça revenait au même. Plus rationnel au sens, les ordinateurs, leur horloge, s'arrête à 1999 et la plupart des systèmes informatiques n'ont pas d'horloge qui prévoit 2000, 2001, etc. Donc, il va y avoir un bug mondial et ça peut provoquer une catastrophe. C'est un discours qu'on a largement entendu, si vous vous souvenez bien. Donc, ces peurs, même si ce sont des constructions de l'imaginaire individuel et collectif, sont des faits réels. De ce point de vue-là, c'est ce que suggère Patrick Boucheron quand il dit « c'est l'orchestration de la crainte ». C'est une construction idéologique, il le dit clairement. C'est à la fois nouveau et pas nouveau. Je rappelle qu'on avait abordé, par exemple, un des philosophes modernes du politique, celui qui pense en termes modernes la cité, le « nous », qui est Thomas Hobbes, dans son fameux livre « Le Léviathan ». Précisément, le ressort du Léviathan, c'est la peur. C'est-à-dire qu'en gros, il part du constat « l'homme est un loup pour l'homme ». C'est-à-dire en gros, il part du constat qu'au départ, c'est la loi de la jungle. L'autre, mais ce qui est déjà le voisin, qui n'est pas forcément le musulman ou je ne sais pas qui, l'autre, c'est une menace pour soi. Et donc, toute la justification d'une construction politique, en l'occurrence contractuelle chez Hobbes, qui va fonder l'État moderne, c'est ce constat de départ. L'autre est une menace, l'homme est un loup pour l'homme, souvenez-vous de cette phrase de Hobbes, dont je rappelle qu'elle n'est pas de Hobbes, c'est un proverbe latin, homo homini lupus, mais que Hobbes reprend à son compte pour fonder ce constat. Et donc, comment faire pour en finir définitivement, en tout cas durablement, avec cet état de peur généralisée qui est lié à une espèce de loi de la jungle où l'autre est constamment une menace pour soi. Voilà. Donc on voit que le ressort de la peur est très ancien et il est constamment utilisé. Alors, ce qui est vrai et qui est peut-être nouveau, c'est que le XXe siècle a introduit une espèce d'utopie, au fond une utopie qui est le dernier avatar de la croyance au progrès généralisé. L'utopie qu'on supprimerait tout risque de la condition humaine et donc toute peur. C'est un philosophe qui est devenu par la suite un expert en assurance, qui s'appelle François Ewald, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, Ewald, E-W-A-L-D, qui a été un proche de Michel Foucault, qui a travaillé avec Michel Foucault de son vivant, au Collège de France, et qui est un de ceux qui a été l'éditeur, au sens vrai du terme, c'est établir les textes, de toutes les œuvres posthumes de Foucault, notamment tous ses cours au Collège de France, etc. François Ewald, c'est quelqu'un d'important, qui est peu connu, et je parle d'expert assurance, c'est qu'au fond, il a écrit un livre qui est très important, qui s'appelle « La société assurantielle », qui qualifie beaucoup plus précisément ce que peut être ce qu'on a appelé l'État-providence. La société assurantielle, explique-t-il, c'est une société, notre société, où l'État s'est porté comme le garant de la suppression de tous les risques, de toutes les peurs, par un système effectivement de prévention généralisée et un système assurantiel généralisé. Et du coup, ça fait que, pour gagner de l'argent plus que comme assistant de Foucault au Collège de France, il a accepté d'être nommé le philosophe expert auprès de la Fédération française des assurances. Et donc après, il a beaucoup réfléchi au-delà de ce premier livre sur la question de l'assurantiel, la logique assurantielle, etc. L'aboutissement de cela, c'est que ça ne marche pas et tout. La judiciarisation, le stade ultime de cela, c'est la judiciarisation généralisée des rapports de la société civile. C'est en gros, on n'accepte plus l'idée d'avoir été frappé par un malheur, c'est-à-dire que d'avoir été atteint par un risque qui se réalisait. Voilà, donc ça c'est le stade ultime de la société assurantielle qui en même temps son échec. Qu'en même temps son échec, parce que s'il y a une judiciarisation et une multiplication des procès, c'est que l'utopie du risque zéro ne peut pas se réaliser. Autrement, ça ne se poserait pas. On ne ferait pas des procès si on atteignait peu à peu le risque zéro. On constate que le mouvement est inverse. C'est-à-dire qu'il y a toujours une échelle qui se casse la figure, une voiture qui a des défaillances, et pas simplement parce que le constructeur est un escroc, hein. C'est aussi parce qu'il y a toujours un risque, malgré tout, qu'une roue se détache. Le principe de précaution, c'est la même logique. Mais le problème, c'est que comme cette utopie est à l'heure, et que notre société en prend la mesure, c'est-à-dire qu'il y a un double mouvement aujourd'hui. C'est-à-dire, d'un côté, on est au paroxysme de l'idéal d'une société assurantielle, où le risque serait jugulé, où les peurs seraient maîtrisées. On est au paroxysme de cela, du moins dans la société occidentale, mais d'un autre côté, on est au moment où on prend conscience que ce n'est pas vrai. D'où le mouvement d'activation de la peur diffuse dans les esprits. D'où le fait que la société française est profondément dépressive, c'est-à-dire que la peur est là, quoi. La peur prend les gens sous toutes ses formes possibles. Et parfois, la forme en question n'est pas définie dans un objet précis. Et du coup, quand la peur n'est pas définie dans un objet précis, c'est de l'angoisse qui monte. La caractéristique de l'angoisse, c'est que l'objet est indéfini. La peur a un objet. Mais quand la peur, comme ça, est un peu multiforme, tous azimuts, son objet est glissant et labile. Et ça vient de l'angoisse, entre parenthèses. Et on est dans une société où l'individu est angoissé, on le voit. C'est la tendance profonde. Donc, Un des remèdes à l'angoisse, c'est de se construire des peurs qui ont un objet. Pour ceux qui n'ont pas lu René Girard, je rappelle simplement ceci, en s'appuyant notamment sur l'étude des textes anciens, notamment de la Bible. René Girard montre comment une société se constitue en se désignant des boucs émissaires. Alors, dans la société hébraïque ancienne, par exemple, ou la société grecque aussi, qui est une société où le rite joue un rôle important. Le sacrifice, et c'est de là que part l'idée du bouc émissaire, le sacrifice, par exemple, d'un bouc, d'un animal, plus largement, était une façon de mettre en scène, collectivement, par exemple, des peurs et les juguler. Mais on est dans une société totalement déritualisée, où il n'y a plus en particulier de rite de passage. Et les rites de passage avaient une fonction importante dans ne serait-ce que les parcours des individus, qui est que ça structurait mentalement, et donc ça canalisait les peurs inévitables, les passages d'un âge de la vie à l'autre. Par exemple, le rite de passage permettant de passer de l'état d'enfance à l'état, ça a dépendu des périodes, aujourd'hui d'adolescence, mais disons allant vers l'état d'adulte, ou le passage à trépas, le passage donc de la vie à la mort. Dans toutes les sociétés traditionnelles où le rite est important, s'est construit, je vous le rappelle, la figure des fantômes et des morts vivants. Le bardo, vous lisez par exemple ce merveilleux et intimidant romancier qui est Antoine Volodine, toute sa littérature se passe dans ce monde du bardo, c'est ce monde entre les vivants et les morts, ceux qui errent entre deux mondes. Or, ça c'est la société asiatique, globalement. Alors, lui s'appuie beaucoup sur l'univers de la Sibérie asiatique. Le thème bardo vient de ces sociétés-là. On retrouve ça en Europe, dans les sociétés traditionnelles. Ce monde où on croit aux fantômes, aux esprits, aux morts vivants, etc., c'est quoi? C'est un monde où on croyait fortement et on pratiquait les rites de passage. Donc on accompagnait l'agonisant à la mort par des cérémonies, des gestes, etc., des rites, pour garantir que le passage se fasse bien. C'est-à-dire que l'individu passe vraiment de l'état de vivant à l'état de mort, rejoigne vraiment le royaume des morts. Et donc, le bardo, ce monde des morts vivants, ça concerne ce qu'on appelle en ethnologie les mal-morts. Les mal-morts, ça s'écrit en un mot. C'est-à-dire ceux qui sont morts mal, et donc qui ne sont pas vraiment morts. Et les mal-morts, c'est essentiellement ceux dont les circonstances de la mort font qu'ils n'ont pas bénéficié de rites de passage. Donc c'est par exemple les suicidés, les morts accidentelles, par exemple la noyée, etc. Ça, ce sont les mal-morts qui vont être des morts vivants, qui sont dans le bardo. Le bardo, dans ces cultures-là, c'est un monde d'entre-deux. Voilà. Donc, contrairement à toutes ces sociétés dites traditionnelles, il est clair qu'on est dans un monde où les rites de passage n'existent en gros plus. Et d'ailleurs, ce n'est pas hasard s'il y a toute une littérature et surtout toute une vague cinématographique de nos jours qui met en scène des morts vivants. C'est très très impressionnant de voir le nombre de films qui tournent autour de cette figure des morts vivants aujourd'hui. Ce n'est pas hasard, ça ne fait que signaler, traduire cette réalité d'une société qui est démunie et face à ces peurs, parce qu'il n'y a plus ces rites, et notamment la peur de la mort. Je vous renvoie à ce magnifique historien des mentalités qui est Philippe Ariès, qui a montré comment on est passé d'une société de la mort au centre à la mort interdite. C'est sa formulation, on est dans une société de la mort interdite. Ça doit se cacher, on ne doit pas en parler, ça ne fait pas l'objet de la vie sociale. Voilà, donc effectivement, tout ce contexte culturel qui forge, si on parle en historien, les mentalités, qui forge les consciences, les visions du monde, si on parle en philosophe, favorise le regain des peurs collectives et individuelles aujourd'hui, très clairement. Je crois que c'est ça le fond du problème. À partir de là, qu'il y ait des constructions idéologiques qui se greffe là-dessus, sur ce terreau-là, oui. Ce n'est pas ça, à mes yeux, le plus important. Le plus important, c'est l'humus qui permet ces constructions idéologiques. Je ne veux pas nier, par exemple, la menace, pour le coup, que constitue le Front National, qui fait partie des acteurs qui construisent idéologiquement, comme Pegida, une vision de ces peurs canalisées sur l'étranger, envahisseur et menaçant. Je ne veux pas nier que ça ait une importance, mais ça a une importance conjoncturelle, c'est-à-dire que ceci ne se serait pas développé, le Front National ne se serait pas développé, s'il n'y avait pas ce socle propice. On retrouve la même chose dans l'Europe et l'Allemagne des années 29-30. Si le nazisme l'a emporté, c'est précisément que le terreau d'une société complètement chamboulée, et notamment par les effets de la crise de 29, entre autres choses, par la défaite de la guerre de 14-18 et ainsi de suite. Enfin, société complètement chamboulée, État-nation récent, qui était l'Allemagne, très récent, contrairement à la France, qui, face à des bouleversements en profondeur d'ordre économique, culturel, militaire, politique, est pris de la peur de menaces tous azimuts, ne sait plus qui elle est, et bien voilà comment le nazisme a pu prospérer et finalement l'emporter. Quand je dis ça, ça ne diminue aucunement la responsabilité de ceux qui font un tel choix. Ça n'enlève rien de leur responsabilité parce que, et c'est ce que va nous suggérer Patrick Bouchon dans une phrase ultérieure, nos peurs, il est de notre responsabilité. Et ça, je dirais que c'est le problème numéro un de l'éthique. Nos peurs, il est de notre responsabilité individuelle et collective de travailler dessus, d'y faire face, de ne pas se laisser agir par elles, et donc de les orienter. De les orienter vers des objets, je dirais, dignes d'une certaine manière, ou qui en valent la peine. Donc, partant de là, si on peut définir l'éthique de responsabilité ainsi, on ne peut ôter aucune parcelle de responsabilité à ceux qui s'orientent vers le nazisme, vers le fascisme, vers le Front National aujourd'hui. Juste une remarque au passage, parce qu'on retrouvera ce problème, on l'a vu chez Platon, on le retrouvera chez Aristote. Donc l'orchestration de la crainte, c'est ce qui se joue largement en France aujourd'hui. Une politique beaucoup plus pragmatique, eu égard à leurs besoins de main-d'œuvre des Allemands, aux enjeux de sécurité intérieure et aux politiques de la mémoire nationale. Je commente ces trois termes, mais surtout le premier. Eu égard aux besoins de main-d'œuvre. On a pu le dire, notamment les Français l'ont dit, pour abaisser l'humanisme allemand de Merkel par rapport aux réfugiés, on a pu dire, mais tout ça, c'est pas de la grandeur d'âme, c'est parce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre. En Allemagne, contrairement en partie seulement à la France, mais largement dans la plupart des pays européens, il y a un grave problème de démographie qui est que la population allemande ne se renouvelle pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de naissances. Vous savez que le taux de fécondité, c'est ce qui détermine largement le renouvellement des générations. En Allemagne, il est trop faible. Comme en Italie, comme en Espagne, comme dans beaucoup de pays, sauf la France pour le moment. Je dis bien pour le moment parce que le taux de fécondité n'est pas suffisant tout à fait quand même en France. Donc, l'Allemagne est un pays qui vieillit. La population vieillit toujours plus, et même des démographes ont prédit que si on projette les courbes, il n'y aura plus d'Allemands d'ici, je ne sais plus combien, un siècle. Enfin, vous savez, il y a des phénomènes exponentiels. Plus ça vieillit inévitablement. Donc il y a des effets de courbes exponentielles, donc d'accélération des processus. C'est comme ça qu'on en vient à ces prédictions-là. Donc, effectivement, ce qui est le plus réalisme pour les Allemands, par rapport à la peur de, ça c'est une vraie peur, de s'appauvrir et de disparaître, eh ben, c'est de faire venir des populations d'ailleurs jeunes. Voilà. Ça c'est donc ce qui est évoqué par rapport aux besoins de main-d'œuvre. Je rappelle quand même une chose pour dire combien la peur peut être dite irrationnelle. C'est que les migrants syriens et irakiens, c'est des populations majoritairement diplômées, très qualifiées. Donc on pourrait dire que c'est une aubaine que les Allemands ont compris. C'est-à-dire faire venir des médecins, faire venir des techniciens, des ingénieurs, etc. Et les faire venir à peu de frais, du coup, vu la façon dont ils débarquent. Donc c'est une aubaine, c'est une opportunité économique, entre parenthèses. mais qui n'est pas vue comme telle par les populations, enfin par une partie des populations, sous l'emprise de la peur. Les enjeux de sécurité intérieure, ça fait simplement allusion, Patrick l'a fait simplement allusion au problème des frontières et de la façon dont, vu que la construction européenne a institué l'espace Schengen, la façon dont un État-nation ne peut plus se protéger par des frontières hermétiques, même si après, Merkel est revenue un peu dessus, c'est juste un effet de régulation ponctuelle. Mais fondamentalement, les flux ne peuvent qu'arriver. Ce qu'elle a compris, c'est que les frontières extérieures de l'Europe sont de la responsabilité de pays qui n'ont pas les moyens, ni la volonté, d'établir des véritables frontières. L'exemple même, paradoxal, c'est la Grèce. D'un côté, on appauvrit la Grèce par rapport au problème de la dette, et d'un autre côté, on voudrait illusoirement qu'elle se dote des moyens de réguler ses frontières, parce que c'est une des frontières les plus cruciales, avec la Turquie en particulier. Merkel, par pragmatisme réaliste, a compris que du coup, les flux, on ne pourrait pas les arrêter, qu'il valait mieux établir un système d'accueil permettant en même temps un contrôle, une canalisation et un contrôle. Parce que ce n'est pas la même chose d'avoir affaire à des réfugiés qui sont nulle part, qui sont sans papier, sans lieu, etc. Regardez Calais, qu'eux-mêmes ont nommé la jungle. C'est une chose d'être dans cet état-là. Une autre chose est de créer des centres d'hébergement comme à La Grasse, à Cada, où on sait parfaitement qui est là. Alors je rappelle que l'obsession des États, puis toujours, c'est le contrôle des populations. Et que la naissance des États a toujours été liée à un acte administratif fort, qui est les recensements. Les recensements de population ont toujours été liés à un problème de constitution d'État. Pensez à l'Empire romain. Donc, voilà, c'est ce à quoi fait allusion Patrick Boucheron quand il parle des enjeux de sécurité intérieure. Il y a bien là un pragmatisme tout à fait efficace, au fond. Aux politiques de la mémoire nationale, ça fait allusion à quoi, rapidement? Ça fait allusion au fait que l'Allemagne est le pays européen, je dirais le seul, qui ait réellement fait un travail de mémoire, comme on dit, par rapport au nazisme. C'est le seul. Un travail de mémoire, un travail de critique, de retour sur soi, pour mettre en question en profondeur pourquoi le « nous » est devenu nazi. C'est seulement l'Allemagne qui a fait ce travail. Et ça se traduit de toutes les façons, par toutes les œuvres artistiques, littéraires, par l'urbanisme. Berlin est une ville impressionnante de ce point de vue-là, très impressionnante, qui consacre des budgets considérables et des espaces immenses à marquer le souvenir du nazisme, mais surtout de la Shoah. Dans une des places centrales de Berlin, imaginez la Concorde en gros. Je dis ça par comparaison pour vous dire... Normalement, les enjeux fonciers, les enjeux financiers, les enjeux immobiliers. Si on supprimait la Concorde, vous imaginez les pressions financières considérables pour construire. Bref, sur une place un peu similaire, dont j'ai perdu le nom, les Allemands à Berlin ont construit un immense champ de stèles avec un cheminement, ça fait comme un dédale, avec un cheminement qui monte, qui descend, on s'enfonce. Et au-dessous, au sous-sol, vous avez, sous ce champ de stèles qui est à l'air libre, vous avez un musée de la Shoah. C'est sur une place immense, et à mon avis, une place qui est aussi grande, peut-être pas tout à fait, que la Concorde. Ce n'est qu'un exemple. Il y a la place du Parlement par ailleurs, qui n'est pas très loin. Il y a eu aussi, outre la réfection de la coupole, il y a un mémorial de l'autodafé qui est alors très discret, mais quelque chose de très impressionnant. C'est sur une place d'allée. Vous avez un rectangle de 3 mètres sur 2, où les dalles sont remplacées par du verre, des plaques de verre, qui permettent de voir sur une béance, un trou, qui est une bibliothèque blanche avec des rayonnages. Donc ça fait une pièce en sous-sol rectangulaire, garnie de rayonnages blancs, et il n'y a pas un seul livre. C'est le mémorial de l'autodafé. Voilà, Berlin, mais en tant que capitale, ce n'est que un exemple, montre comment les Allemands ont opéré un formidable travail de retour critique que n'ont pas fait, par exemple, les Autrichiens, que n'ont pas fait les Français. Et donc, cette question de l'enjeu des politiques de la mémoire nationale, voilà ce à quoi ça fait allusion, c'est sûr que pour un Allemand, doté d'une conscience historique minimale, voir des réfugiés syriens qui arrivent, c'est inévitablement penser aux parias qui étaient les juifs, qui ont dû foutre le camp pour échapper, ceux qui ont pu, et faire face au formidable flux après-guerre de tous ceux qui étaient partis et qui sont revenus. Il y fait allusion ensuite. Donc, deux moments de l'histoire récente, je continue. Ah ben, justement, la figure du paria, comme Hannah Arendt l'a montré. Donc, Hannah Arendt, je vous rappelle, cette grande philosophe allemande, américaine par la suite, qui a pu échapper au nazisme et qui a construit une œuvre philosophique hantée d'un bout à l'autre par la question du nazisme et de la Shoah. Et Hannah Arendt parle justement par rapport aux juifs réels, comme dirait Benny Levy, c'est le juif qui est juif parce que c'est un fait, la facticité du juif. Celui qui a eu beau s'assimiler complètement, mais qu'on a désigné comme étant un juif, même si lui pensait qu'il n'était plus, il faut pas juif. Hannah Arendt, donc, désigne cette figure du juif réel comme la figure du paria. Et l'un des legs les plus terribles du XXe siècle européen, peut-être son principal fardeau. Là, je vous renvoie au livre, par exemple, d'un Jean-Claude Milner, en particulier « Les penchants criminels de l'Europe démocratique ». Et bien entendu, l'Allemagne n'a pas le même rapport historique au problème de réfugiés que la France. Et notamment parce que l'Allemagne a été le pays du nazisme, des parias, donc, de la production des parias, mais aussi depuis la guerre, parce que l'Allemagne a fait ce travail de mémoire que la France ne fait pas. C'est-à-dire qu'il y a quand même une caractéristique de la société française contemporaine, c'est l'amnésie. On a beau le rappeler, mais dans les esprits, ça ne produit aucun effet. Ça me frappe beaucoup aujourd'hui. Le fait que la France a accueilli depuis le début du XXe des vagues de réfugiés, d'immigrés très importantes. Pensez, il y fait allusion après, au Boat People, 79. Pensez antérieurement aux républicains espagnols, alors particulièrement par ici, particulièrement à Toulouse, qui est la première ville espagnole de France, quoi. Les républicains espagnols, les réfugiés espagnols, ont été plusieurs dizaines de milliers, même plus que 100 000 à venir en France. Et antérieurement encore, citons le dernier exemple du XXe siècle, les Arméniens. Marseille est une ville arménienne. Et j'avais lu, si je me souviens bien, que la France a accueilli, au moment du génocide, a accueilli, je crois, 200 000 Arméniens. 200 000. On y reviendra par rapport à Aristote. La question du nombre ne permet pas de comprendre quoi que ce soit ou de résoudre quoi que ce soit. Bon, on continue sur le texte parce que quand même il faudra le terminer aujourd'hui. Donc, car il s'agit bien d'une épreuve, non au sens d'un événement douloureux, mais d'un moment de vérité qui éprouve la résistance d'une société. Une mise à l'épreuve de ce que l'on est, ce que l'on croit devoir au passé, ce que l'on espère devenir. Voilà. C'est ce que j'appelle, moi, être capable de faire face au surgissement du réel. C'est ce que Patrick Boucheron appelle une mise à l'épreuve. Et ça, qu'on soit capable de vivre, de tenir la mise à l'épreuve, c'est déterminant pour nos consciences et notre avenir. Comparons notre prise de conscience aujourd'hui, tardive, ambiguë, contradictoire, avec celle de 1979, lors de la grande crise des Boat People qui suit la fin de la guerre de Vietnam. Il faut se souvenir de la mobilisation, non seulement des intellectuels, mais de la société tout entière, et ne pas se contenter de l'image nostalgique de Sartre et Aron, réunis sur le perron de l'Élysée, venus tenter de convaincre un pouvoir politique qui déjà ne voulait pas agir. C'était Giscard d'Estaing, je vous rappelle, à l'époque. 130 000 réfugiés vietnamiens et cambodgiens ont été accueillis en France en très peu de temps. 130 000 ! Au point de changer la physionomie de certains quartiers, comme le 13e arrondissement de Paris. Si vous connaissez le 13e arrondissement, il a changé du tout au tout, au point que maintenant il est appelé le Chinatown par les Parisiens. Que s'est-il passé entre cette époque et aujourd'hui pour que l'autre rive de la Méditerranée nous semble plus éloignée de nous ou plus menaçante que ne l'était le golfe de Siam? Pas seulement l'augmentation du chômage, c'est ce qu'on dit couramment, c'est beaucoup plus profond, ça travaille beaucoup plus en profondeur les consciences. Mais 30 ans de combat idéologique désignant l'antiracisme et au-delà l'ouverture à l'autre comme le principal danger qui menace l'identité nationale. Voilà. Donc ça, c'est essentiel, mais à condition de ne pas oublier ce que je disais avant, ce combat idéologique a de la puissance parce qu'il est ancré sur ce socle, cet humus que je décrivais tout à l'heure, qui a transformé les mentalités, la vision du monde de l'homme européen. Voyez quel cynisme et surtout quelle conception étriquée des grandeurs d'une nation tout cela produit. Un mélange détonnant d'arrogance et d'abandon. Une perte de confiance dans les ressources morales d'une société. La peur est une manifestation de quelqu'un ou d'un collectif qui n'a plus confiance en soi. Au fond de ce procès permanent fait à la pensée critique des années 70, c'est le lien universel qui se trouve en danger. Je pense à Michel Foucault qui, en 79, disait craindre le problème des réfugiés ne soit pas seulement une séquelle du passé, mais un présage de l'avenir. Alors, la pensée critique des années 70, précisons-la un tout petit peu, en France particulièrement, mais pas seulement, on le retrouve aux États-Unis, etc., à cette époque d'ailleurs, où les intellectuels français, les penseurs français, sont accueillis à bras ouverts dans les universités américaines, ce qui est en gros fini aujourd'hui. C'est des gens comme aussi bien Foucault, Michel Foucault, que Jacques Derrida, etc. Tous ces penseurs, tous ces philosophes, nourris ou porteurs encore, en tout cas nourris, du structuralisme, de la pensée structuraliste, qui se termine à peu près. Mais eux, ce sont d'une certaine manière les prolongateurs. Pensée structuraliste autour des figures comme Lévi-Strauss, l'anthropologue, l'ethnologue, Jacques Lacan, Benveniste et Jacobson, les linguistes, sont des penseurs qui interrogent la vision du monde de façon radicale, interrogent le socle, ce qui nourrit nos pensées qui apparaissent familières, y compris aux intellectuels. Les présupposés philosophiques, épistémologiques. Et donc, on a pu nommer ces penseurs, penseurs critiques. Critique au sens premier du terme, qui est le sens grec, crisis en grec, qui a donné la crise, qui a donné critique, c'est ce moment dans un flux, dans un processus, dans un continuum, ce moment de hiatus, ce moment de rupture, ce moment de suspension. Et dans ce moment, c'est un moment parenthèse aussi d'une certaine manière, et dans ce moment se remet en cause ce qui établissait le continu. Voilà. Alors on a pu appeler cette pensée la pensée de la déconstruction. On a dit de Derrida, c'est un philosophe de la déconstruction. Ces penseurs démontent le mécano pour mettre en évidence les présupposés, les sous-entendus. Et bien ça, c'est l'effort même de la philosophie depuis Platon. C'est l'effort même socratique. Socrate n'a jamais fait autre chose que ça. Et donc, la pensée des années 70, avec ces philosophes nourris du structuralisme, que sont Michel Foucault, que sont aussi Sartre, qui n'était pas du tout structuraliste, que sont Pierre Bourdieu aussi, cette période remet à plat tout ce qui nourrissait nos façons spontanées de penser. C'est en gros nos idéologies en réalité. Quand la pensée, quand un système philosophique n'est plus réinterrogé de façon critique, ça va devenir à terme une idéologie. Cette pensée critique interroge aussi le monde tel qu'il est construit, interroge notre société tel qu'il est construit. Et c'est ça à quoi fait allusion Patrick Boucheron. On est encore dans une époque où on ose interroger, questionner de façon critique notre monde, ses déviations, ses déviances, ses errements, parce qu'on croit encore, on tient encore à une espèce d'aune, d'instrument de mesure, qu'on pense valable, quelles que soient les situations, qui est l'universel. L'universel qui permet de dire, quelles que soient nos sympathies, par exemple, on a combattu les Américains contre la guerre de Vietnam en ayant, par exemple, une sympathie pour le Vietnam du Nord communiste. Sympathie idéologique, au fond. Voilà que la guerre est terminée, que le Sud est aussi communiste, qu'il y a une homogénéisation du territoire, sauf que ça produit les bad people. Est-ce qu'on en reste attaché à notre conviction idéologique, à notre sympathie politique, qui fait que on va considérer les bad people comme des salariés qui ne doivent pas bénéficier d'un quelconque intérêt de notre part? Ou est-ce qu'on reste lié dans notre pensée à ce fondement qui est de croire qu'il y a un principe universel qui vaut partout, en tout temps et en tout lieu? Et donc, ce principe, Foucault va le développer dans son interview qu'on va essayer d'aborder en deux secondes. Ce principe universel, c'est par exemple que ce qu'on appelait à l'époque les droits de l'homme, c'était galvaudé par là-dessus, que rien ne peut justifier qu'on condamne à mort un humain. Tout homme, quelles que soient les circonstances, a le droit à la vie, principe universel. C'est parce qu'on tenait encore à ce qu'il y avait de l'universel que, du coup, en pensant contre soi, contre nos sympathies, on a pu, à l'époque, se mobiliser par rapport aux bad people. Voilà ce que veut dire Patrick Boucheron dans ce paragraphe-là. Et ça, c'est véritablement le vrai mouvement de la pensée philosophique, qui est qu'au bout du compte, on va faire fi, on ne va pas avoir de faiblesse, d'accommodement avec nos sympathies idéologiques, politiques. On va faire fi de ces accommodements. On refuse l'accommodement, l'arrangement, petit arrangement avec nos morts. Ça, c'est le geste philosophique par excellence. Et à l'époque des Sartre, des Foucault et autres, avait cette exigence portée par la philosophie. Probablement que ce que nous rappelle Patrick Boucheron ici, c'est qu'aujourd'hui, on n'en est plus du tout là. Aujourd'hui, dans la scène publique, donc aussi médiatique, on n'a que des figures qui discourent, mais qui passent leur temps à faire des petits arrangements, quoi. C'est bien le problème. Comme Jürgen Habermas, il faut dire avec force que l'hospitalité, donc, n'est pas un devoir qui s'impose aux sociétés, elle est un droit que peuvent réclamer les réfugiés. Ça tient, cette proposition tient, si on tient encore à quelque chose de la pensée des années 70. Si on tient encore que l'universel, ça doit rester une aune commune à tous, qui permet la mesure, sous toutes les latitudes, dans toutes les situations, dans toutes les périodes. Pourquoi? Parce que dire que l'hospitalité, c'est un droit pour celui qui doit en bénéficier, le réfugié, c'est dire qu'il y a un droit universel que la philosophie pense, qui s'impose comme référence première. Donc ça pose beaucoup de problèmes, parce que depuis les années 70, on a quitté cet axiome qu'il y a de l'universel, dans la pensée, pour introduire, ça a été aussi un effet du développement de l'ethnologie et de sa vulgarisation, par exemple, introduire une pensée beaucoup plus de la différence, pour ne pas dire du différentialisme. Une pensée consistant à dire que l'universel a créé les totalitarismes, opposant un modèle homogène de pensée et ne tenant pas en compte les différences. Donc, il n'y a plus d'universel qui tienne. Certains, par exemple, étant appelés à justifier, non pas expliquer, Daesh ou les pratiques de pays où on condamne massivement à mort, en disant « c'est une différence de vision du monde, de culture ». On n'a pas d'autorisation pour intervenir, condamner. C'est une pensée qu'on entend souvent aujourd'hui, mine de rien. Toute la difficulté, c'est comment tenir à l'universel qui permet d'instituer un principe directeur qui évite la confusion actuelle des esprits, par exemple par rapport aux réfugiés, le principe premier d'hospitalité, qui est un droit qu'on ne doit faire que respecter. Comment tenir un universel qui permet cela, alors qu'en même temps, on a dû faire une critique radicale de l'universel, totalisant, totalitaire. Probablement qu'il faut penser une autre voie de l'universel, c'est en particulier ce que certains peuvent appeler l'universel singulier, et Foucault avait commencé à réfléchir dessus. Bénélévier avait vraiment poursuivi l'effort. Jean-Claude Milner le fait aussi aujourd'hui. C'est-à-dire, il ne faut pas jeter l'universel avec l'eau du bain. Il faut voir, après le travail critique qu'on a pu en faire, comment on peut tenir un universel qui ne produise pas les impasses qu'on a connues. Ça ne résout pas la question de l'universel. C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'y a que des éthiques particulières? Ou est-ce qu'il y a une éthique qui peut avoir une portée universelle? La question reste la même. On peut dire qu'il y a des éthiques qui sont relatives à tel ensemble humain. La question de l'autre, il n'empêche que, comment dirais-je, il faut quand même l'accrocher, la rattacher à la question de l'universel ou pas. Ce que fait Lévinas. Hein. Lévinas creuse au fond aussi un universel singulier, mais un universel. Il n'abandonne pas l'exigence de l'universel. C'est en ce sens-là que c'est essentiel. Ce n'est pas l'individualisme. Le singulier, c'est que ça renvoie effectivement à l'autre, que chacun a de l'irréductible en soi que l'on ne peut pas assimiler à soi pleinement. Alors, je poursuivrai rapidement. Comme Jürgen Habermas, il faut dire avec force que l'hospitalité n'est pas un devoir qui s'impose aux sociétés, elle est un droit que peuvent réclamer les réfugiés. Et ce droit n'est pas soumis à la discussion politique, au sens où c'est au-dessus. Ça s'impose. Ne faisons pas comme si c'était un sujet de débat, du coup. C'est toute l'histoire du XXe siècle qui a établi le statut de réfugié, défini par la Convention de Genève de 1951, au nom de principes universels. C'est le problème du retour critique. Quel rapport on a à la Révolution française et aux Lumières? C'est toute la question qui est posée. On a fait une critique et une déconstruction salutaire des Lumières en disant, et de la Révolution française, en disant « ça a pu être le terreau des pensées totalitaires ». À juste titre. Mais en même temps, la question se repose dans les mêmes termes, est-ce qu'on dit la Révolution française, les Lumières, pas beau, on élimine, ou est-ce qu'on dit qu'est-ce que, une fois le travail de la critique opéré, qu'est-ce qu'on garde d'essentiel dans les Lumières? Et la question plus précise, garde-t-on la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la Révolution française? Garde-t-on les pensées et quoi dedans de Rousseau, Voltaire, etc.? Inévitablement, on est obligé de revenir à cela. Je suis frappé comment aujourd'hui, il y a vraiment la tentation d'opérer un mouvement, de remonter en deçà de la Révolution française et d'en revenir, par exemple, au Moyen-Âge. C'est un mouvement très fort et qui se traduit par des petites réflexions anodines. Par exemple, des visiteurs qui viennent d'à côté, qui viennent ici, quand les filles de l'accueil expliquent qu'il y a deux abbayes et donc deux entrées et que ça date de la Révolution française, elles sont frappées par le fait que plein de réactions spontanées de gens, c'est dire « Oh, la Révolution française, ah oui !» L'idée qu'on n'en a rien à fiche et qu'il faudrait revenir en vent. Ça se traduit ici par l'idée qu'il faudrait qu'il n'y ait qu'une abbaye religieuse. C'est un enjeu pour l'Europe. Vous savez qu'on a échappé de peu dans les débats des dernières décennies sur l'Union européenne et la Constitution européenne à ce que s'impose dans la Constitution la référence au christianisme. Autrement dit, l'enjeu, c'est que ça, c'est annuler la référence à l'universel, au droit universel, à la Révolution française et aux Lumières. L'enjeu, il n'est pas clos. On est au début de cet enjeu aujourd'hui. Donc, ce que dit Patrick Boucheron est essentiel. Ne faisons pas comme si c'était un sujet de débat. Ça suppose qu'on soit acquis et ferme sur 89. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas aujourd'hui, globalement. Certains responsables politiques prétendent faire le tri entre les réfugiés pour ne regarder que les chrétiens. On ne devrait même pas avoir à réfuter politiquement une telle proposition, ni même à s'en indigner en disant qu'elle est infâme. Elle l'est. Il suffit de dire qu'elle est contraire au droit et qu'un élu de la République ne peut se placer hors de la loi internationale. La peur, justement, est-elle l'une des clés de compréhension des politiques d'accueil, un pays se montrant plus ouvert s'il se sent sûr de lui? Patrick Boucheron. Au cœur du mot même d'hospitalité gronde, on l'avait déjà évoqué ça, une menace, une incertitude. C'est ce que le linguiste Émile Benveniste, linguiste qui est mort jeune et qui faisait partie de ce mouvement critique en partie structuraliste des années 60-70. Donc Benveniste a montré à propos de la notion même d'étranger, tiraillé entre deux mots latins, hospes et hostis. On l'avait déjà évoqué, souvenez-vous, avant l'été. Le premier a donné le mot français hospitalité qui n'a de sens que dans un rapport de réciprocité. Alors ça, c'est très juste, au sens où le mot philia grec qui désigne l'hospitalité, l'amitié, est un mot qui fondamentalement désigne toute relation humaine réciproque, où il y a une dimension d'échange réciproque. L'hôte désignant indifféremment celui qui accueille et celui qui est accueilli, ça c'est une magnifique invention de la langue française. C'est magnifique, c'est d'une grande profondeur que révèle Patrick, que le mot « hôte » veut dire les deux parties, celui qui accueille et celui qui est accueilli. Mais ce mot-là, est tout près d'hostis, donc c'est l'autre mot, qui désigne l'ennemi et inspire l'hostilité. En français médiéval, cela donne l'host, host ou esté, l'armée ennemie et donc la crainte de l'invasion. Mais c'est tout le fantasme aujourd'hui auquel se rallient des intellectuels qui étaient brillants en France. Je pense à Richard Millet, je pense à Renaud Camus. Ça a été des grands écrivains. Ils se rallient à cette théorie de l'invasion, c'est-à-dire ce qu'ils appellent aujourd'hui le grand remplacement. Le grand remplacement, c'est ça. Le grand remplacement, c'est que par l'invasion, peu à peu, notre société, notre population est remplacée. Les Gaulois de souche sont peu à peu remplacés par les arabo-musulmans. Que suggère cette étymologie ? La figure de l'étranger nous requiert philosophiquement à l'accueil inconditionnel. Ça, c'est précisément une allusion à Lévinas. Lévinas dit précisément cela. L'autre et l'étranger, c'est une figure de l'autre. L'autre nous appelle, nous requiert, nous réquisitionne inconditionnellement. Face à l'autre, je dois me rendre, et à partir de là, Lévinas va expliquer le sens profond du mot « responsabilité », qui ne renvoie pas du tout à un individualisme, qui renvoie au fait que l'autre me commande. Le mot « responsabilité », c'est le mot « répondre », c'est le même mot « répondre ». L'autre me commande, l'autre m'appelle, et je dois répondre, présent. Voilà à peu près ce que dit Lévinas et toute son éthique de la responsabilité est basée là-dessus. Et donc, c'est inconditionnel. Cette hospitalité est ontologiquement, c'est-à-dire dans la structure de l'être profond, inconditionnelle. Elle n'est pas soumise à des conditions, quelles qu'elles soient. L'hospitalité est inconditionnelle, mais en ouvrant sa porte à l'étranger, sans lui demander son nom, on laisse également s'engouffrer inévitablement la possibilité de grandes frayeurs. Donc, ce qui est important dans ce passage, c'est qu'il faut tenir ces deux bouts si l'on pense la question des migrants. Tenons ensemble les deux bouts, ne lâchons pas un bout. Ce mouvement peut conduire aussi à de terribles catastrophes. Regardons l'Allemagne, les images télévisées de l'accueil réservé aux réfugiés nous rassurent, mais on sait aussi qu'en coulisses, le mouvement Pegida fourbit ses armes. Ce que soulignait Derrida écrit un livre sur l'hospitalité, hein, c'est que l'hospitalité véritable ne peut être qu'à la fois inconditionnel et conditionnel. Ça, c'est très profond. Très profond. C'est ça qu'il faut penser. Comment régler cette contradiction? Encore une fois, par le respect du droit. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il ne faut pas faire les belles âmes, il ne faut pas faire l'ange. Qui fait l'ange fait la bête. Hein. Philosophiquement et historiquement, c'est très vrai. Se contenter de vagues. N'ayez pas peur, mais c'est pas grave, n'ayez pas peur. Et là, on ne va pas résoudre la montée de la peur et le fascisme qui vient avec. Historiquement, la montée de la peur a toujours été liée à la montée du fascisme. Historiquement, c'est une mécanique implacable. Vous avez un très beau roman que je vous recommande, d'un auteur qu'on peut dévaluer un peu, parce que parfois on le considère comme un auteur un peu trop médiatique. Pourtant, il a écrit des très beaux livres, dont ce roman. Cet auteur, c'est Philippe Claudel. C'est la UDEL. Et ce roman s'appelle Le rapport Brodeck. Et c'est un livre qui est situé hors du temps et hors d'un contexte géographique, mais on peut tout à fait penser que c'est un village allemand au moment de la montée en puissance du nazisme. Et il y a un étranger qui arrive dans le village, qui est Brodeck, qui est d'abord accueilli. Et peu à peu, il y a toute une mécanique qui se met en place, qui va s'affoler et qui va faire qu'il est l'objet de toutes les peurs. Il va porter malheur au village, il va détruire le village, et donc ça va se retourner complètement. Et c'est un livre remarquable où Claudel a une phrase à un endroit, la peur, c'est pas mot à mot, mais cette phrase, j'en restitue l'idée exactement. La peur est la source principale du mal. Et je crois que c'est très vrai. La peur est la source principale du mal. Donc, ce que soulignait Derrida, l'hospitalité à la fois inconditionnelle, au nom du droit supérieur, universel, et conditionnelle. Conditionnelle, c'est-à-dire conditionné par le fait que la peur, fût-elle imaginaire, est un fait, est un réel, et qu'il faut savoir traiter cela. D'où le fait qu'on ne peut pas se contenter de dire « n'ayez pas peur ». Donc, n'ayez pas peur pendant que les gouvernants, eux, ne cessent d'avoir peur de leur opinion publique qu'ils supposent hostile aux étrangers, au point de les conformer comme tels. Il ne s'agit pas de nier la peur, mais de l'affronter pour mieux la réorienter vers les menaces véritables. Affronter la peur. Voilà vraiment le principal objet 24 000 réfugiés ne menacent ni l'identité, ni la sécurité, ni la prospérité de la France, mais il y a de quoi avoir peur, vraiment peur d'un pays qui ne se sentirait pas ou plus capable de les accueillir. Vous défendez une histoire monde connectée, alors ça fait allusion notamment à son livre collectif « L'histoire du monde au XVe siècle », fait avec 80 historiens venant de tous les horizons géographiques et culturels, qui accordent une égale dignité aux sources européennes et non européennes. Pensez-vous que l'histoire même ne peut s'écrire qu'avec hospitalité? Bon, ça c'est un peu plus éloigné, mais on va le lire quand même, parce que c'est quand même épistémologiquement très intéressant. Patrick Boucheron. Il me semble désolant de réduire l'hospitalité à la charité. Le pape François a eu des paroles très fortes en refusant de faire la part entre ceux qui fuient la guerre et ceux qui fuient la faim. Ça, c'est une réponse au discours assez détestable de Sarkozy, qui n'est qu'un discours purement d'opportunisme politique, quoi. Mais un esprit laïque comme moi ne peut se résoudre à ce que l'idée de fraternité universelle, vertu profondément civile, ne soit plus défendue que par la charité chrétienne des Églises, qui, hystériquement, n'en l'ont pas toujours défendue avec autant d'ardeur. Et voilà ce qui peut faire peur, c'est qu'on est dans un état de société tellement délabré que, d'une certaine manière, il n'y a que le pape François et les chrétiens qui vont nous rappeler à des lois universelles. Alors que le christianisme, par définition, c'est voulu universel, mais n'est pas universel. Face à l'islam, il ne peut pas être universel, par exemple. C'est un et l'autre. Donc voilà l'état lamentable dans lequel nous sommes arrivés aujourd'hui, quoi. L'histoire que j'aime, que je pratique, que je revendique, fait la part de l'autre. Donc on retrouve Lévinas, là, effectivement. Michel de Certeau définissait le discours historique comme celui qui comprend son autre. Pas seulement qu'il l'admet ou cherche à l'expliquer, mais qui le prend avec lui. Je rappelle que comprendre, c'est ça qui est beau dans ce verbe, qu'on oublie souvent. Comprendre, c'est cum prere, c'est-à-dire prendre avec, donc qui le prend avec lui. Les valeurs de compréhension sont à la fois nécessaires à la production du savoir et à une vie bonne sur le plan éthique. Alors là, je ne le développerai pas, je vous suggère juste une des principales questions épistémologiques et méthodologiques des sciences humaines aujourd'hui, que ce soit l'anthropologie, la sociologie, les sciences sociales, l'histoire et autres. Soit on privilégie une approche du savoir en sciences humaines et d'une méthodologie qui va avec, qui est explicative, qui est basée sur l'idée de l'explication. Or, le problème de l'explication, c'est que c'est forcément une visée qui s'inscrit dans un système de cause à effet qu'on essaie d'établir. Ça suppose donc la position de surplomb, de hauteur, d'être au-dessus du lot de celui qui construit le savoir explicatif. La démarche explicative, encore une fois, va construire un système qui prétend faire le tout d'une réalité humaine. Contre cette démarche, il y a une toute autre épistémologie, une toute autre méthodologie induite dans les sciences humaines, qui est la démarche compréhensive. Et la démarche compréhensive, la démarche qui privilégie la compréhension à l'explication, ne prétend pas établir un système explicatif, c'est-à-dire de causalité, qui fait le tout de la question, a pour ambition d'établir le sens d'une réalité, de mettre un ordre signifiant dans une réalité humaine que l'on observe, et suppose non plus une démarche de surplomb, mais une démarche d'accueil des réalités autres que soi que l'on étudie pour en produire un savoir. Vous voyez, je ne peux pas développer plus. Et ça, c'est un enjeu majeur et permanent des sciences humaines, qui les déchire d'ailleurs entre deux courants systématiques. Et clairement, ce que dit Patrick Boucheron là, c'est qu'il est dans une démarche compréhensive et non pas explicative. Une histoire compréhensive est la mise en récit d'autres vies que la mienne. Cette compréhension d'ailleurs, il n'est pas exclu que la littérature la prenne aussi en charge. Et par exemple, l'histoire compréhensive va s'appuyer en sociologie ou en anthropologie sur des récits de vie. C'est-à-dire que le travail principal de l'enquêteur, ça va être d'accueillir la parole de l'autre et d'en faire des récits de vie. Alors que la démarche explicative, par exemple, va tenter d'établir des séries statistiques pour établir des corrélations statistiques, par exemple. Donc deux démarches extrêmement différentes. Face aux événements que peuvent l'historien et l'écrivain, sont-ils contemporains, partageant, comme vous l'écriviez, de Léonard et Machiavel, la même urgence d'agir? Depuis 3 ans, on parle de la crise des réfugiés syriens en des termes très abstraits, en alignant des chiffres et en dessinant des cartes. Pourtant, ce qui a déclenché une prise de conscience, c'est-à-dire à la fois une angoisse et un désir d'action, c'est un récit. Le récit accroché à l'image atroce du cadavre du petit garçon échoué sur une plage turque. Cela fait plus de 10 ans que certains écrivains italiens ont pris en charge Lampedusa. Il existe une littérature des réfugiés qui est très en avance par rapport aux travaux des historiens. Que peuvent-ils ajouter à la force des vocations de ces récits ? Ils peuvent remarquer que dans ces parties du monde, par exemple le détroit de Sicile, les évolutions contemporaines sont terribles car elles tranchent des frontières dans des espaces de rencontres très anciens. Je vous rappelle que la Sicile était grecque, que Platon est venu en Sicile, par exemple, qu'il y a des temples grecs en Sicile, et que ce n'était pas une invasion, c'était le même monde, c'était le même monde. Plus on connaît l'histoire de la Méditerranée sur la longue durée, celle de l'île de Pateliréa, par exemple, ou celle de l'île de Kos, plus on est désespéré. Ce qui se joue est une dégradation très rapide de ce qu'était la vie des relations en Méditerranée. Je rappelle que Méditerranée, ça vient du latin Mare Nostrum. Mare Nostrum, ça veut dire notre mer, notre maison commune. Mare Nostrum. Dans Méditerranée, il y a le « nous ». Mais on pourrait en dire de même de l'Europe centrale. Tout va si vite qu'on a déjà oublié 71 morts du camion hongrois en Autriche, qu'il est tragique de comparer à ce monde d'hier décrit par Stefan Zweig, grand écrivain qui nous fait ressentir en profondeur, au fond, ce que sera le nazisme. Il y en a d'autres, il y a Hermann Broer aussi, que je vous conseille de lire, Hermann Broer, B-R-O-C-H, Les Irresponsables, c'est un texte magnifique, qui au fond nous fait comprendre comment des gens ordinaires de la petite bourgeoisie sont devenus nazis. C'est en faisant ce genre de récit d'espace que les historiens peuvent se rendre utiles à une histoire de la conscience, un récit sur la longue durée de ces espaces, de ces oscillations, de ces destins individuels. On rejoint là ce qu'il y a de commun, voire de contemporain, entre l'histoire et la littérature, dresser l'état des lieux, faire le constat de ce qui arrive. Car il y a aussi une autre forme de contemporanéité qu'il faut rappeler. S'échouent sur les plages turques les conséquences dramatiques de nos choix ou non-choix concernant le conflit syrien. En ce sens aussi, les réfugiés sont nos contemporains. L'interview de Foucault auquel il est allusion, qui est une interview très circonstancielle, et la plupart du texte ne fait que rappeler les faits de l'époque des boat people. Mais il y a 2-3 fulgurances dans ce qu'il dit, et notamment le fait qu'il considère que les boat people, ce n'est que le début du problème auquel le monde va être confronté. C'est-à-dire les mouvements de population mondiale, c'est ce que je disais au tout début de cet atelier, les mouvements de population mondiale, les grandes migrations de population, pour des raisons économiques, climatiques, politiques, de guerre, etc., on n'en est qu'au début. Et Foucault, en 79, annonce ce qui se passe en ce moment. Enfin, là, ce qu'évoque Foucault, là, précisément, c'est par rapport au boat people. Il annonce le développement des dictatures totales et des régimes oppressifs et des guerres. Et c'est ce qui se passe actuellement. Si on prend la photo du petit noyé, l'image, elle joue dans les deux sens. Pensez à l'expérience du banquet du livre de cet été. Jean-Louis Comolli, qui est quand même un théoricien de l'image et qui sait ce qu'il fait avec les images et ce que font les images, lors de la première séance, a passé, il l'avait récupéré, a passé les captations non censurées de Daesh, filmant, pas simplement une image ponctuelle, mais dans la durée, tous les processus de mise à l'épreuve, de torture et de mise à mort d'un certain nombre de prisonniers dans les conditions les plus horribles qui soient. Et c'est vrai que ça a eu un effet traumatisant. Il y en a qui sont sortis en pleurant, etc. C'est intenable. Au fond, la seule question qui se pose, les images sont là, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment on travaille la conscience émotionnelle ou traumatique? Je préfère traumatique à émotionnel, d'ailleurs, parce que je pense que l'émotion, on peut, et d'ailleurs souvent les images qui procurent de l'émotion sont esthétisées. L'émotion, on peut en faire une esthétique et ça endort. Alors que les images brutes comme ça, du réel qui surgit à la figure, c'est le réel qui surgit. On n'est plus dans l'imaginaire. L'émotion nourrit l'imaginaire. Les images qu'a montré par exemple Comolli dans un contexte et un commentaire sont des images où le réel, je parle du réel dans les catégories de Lacan, hein, le réel par opposition à l'imaginaire ou symbolique, le réel saute à la figure et provoque une béance qui peut, dans la conscience, qui peut, en tout cas, qui doit être nécessairement propice à un travail de l'esprit, qui doit être. Après, on peut rester avec ses béances. Alors que des enfants qui n'ont peut-être pas encore la capacité mentale, intellectuelle à travailler là-dessus, qu'on leur épargne, effectivement, c'est tout à fait raisonnable. Mais pour des adultes qui sont censés assumer la responsabilité face au monde, parce que attention à ne pas, ce que fait notre société au nom du principe de précaution, à ne pas infantiliser constamment les adultes. On est dans une société qui infantilise, où l'État infantilise les adultes. L'image qui se veut sans médiation, sans le moins de médiation possible, être le surgissement du réel, je veux dire, le problème du traumatisme, c'est qu'on est dans une société, dans plein de domaines, qui produit des mouvements paradoxaux sur l'individu, c'est-à-dire, qui est dans l'injonction paradoxale. D'un côté, on est dans une société qui tient le discours. On vous protège, mais petit, discours infantilisant, qui, du coup, affaiblit l'individu, sa capacité de faire face au réel. Et d'un autre côté, on est dans une société où, que l'on le veuille ou pas, le réel a des surgissements de plus en plus forts, qui est reçu par des individus infantilisés. C'est tout le propos magnifique de Gabriel Martinez-Gros, qui s'interrogeait, en tant qu'historien, philosophe, qui s'interrogeait pourquoi notre société européenne est devenue totalement intolérante à la violence. Et c'est un fait que notre société est totalement intolérante à la violence. Avant, les exécutions sur la place publique, c'était banal, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on cache tout ça. Et donc, ce qu'il évoquait, c'était sa conclusion comme une alerte. Il a joué un rôle de lanceur d'alerte, Gabriel Martinez-Gros, d'une certaine manière, comme on dit aujourd'hui, lanceur d'alerte. Et il a conclu en disant que si on reste sur cette logique de ne plus pouvoir affronter la violence, on a un avenir de court terme, pas brillant, plus que sombre, parce que la violence de l'extérieur est en train d'affluer en Europe. L'exemple type, c'est les événements du 6-11 janvier en France, de cette année. Charlie Hebdo, l'hypercachère, où là, la violence à l'état pur surgit au cœur de notre société. Et je crains qu'hélas, comme le craint aussi Gabriel Martinez-Gros, qu'on n'en soit qu'au début, qu'on entre dans une nouvelle phase de l'histoire, où on ne peut plus être des individus nourris au biberon, infantilisés tout au long de leur vie. Il va falloir se doter d'une vision du monde, d'une conscience, qui soit capable de faire face à cela. Si on ne fait pas face à ça, ça va être la catastrophe. On va se faire laminer, d'une part, et d'autre part, on va focaliser nos peurs sur des mauvais objets. Exemple, focaliser nos peurs sur les réfugiés. Au point que circule avec facilité dans les esprits le fantasme que les flux de réfugiés cachent des dizaines de milliers de djihadistes. C'est ce qui se répand dans les esprits aujourd'hui.